Les grandes conversations de l'Institut Néo-Québec, invité Ben-Marc Diendéré, président du Conseil des arts de Montréal, un professionnel en transition.
C'est quoi être en transition?
Oui.
Ne rien faire. Non, mais ne rien faire. Non, mais blague à part, là, être en transition. Vous voyez, quand vous avez fait 25 ans de corpo comme moi, à un moment, vous vous demandez s'il faut continuer à rouler votre machine, continuer ce que j'appelle nos phases d'imitation, où on s'arrête un coup et puis on regarde la vie dans la face et on se dit, est-ce que là j'ai envie de freiner un peu la machine ou le train, puis descendre dans la gare, puis regarder les passagers un peu quand même avant de continuer. C'est ça la transition. Alors moi je pense que j'avais fait un peu le tour de ma job, communication, affaires publiques, image de marque, dans diverses industries quand même, culture, télécom, médias, agroalimentaire, ferroviaire, passager. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau dans mon métier à moi, si ce n'est pas de me réinventer moi-même. Je déteste les termes, mais il faut le faire à un moment. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie. Puis, je vais vous dire, la transition, ça arrive quand tu as 50 ans.
Ok.
Je me mets à réfléchir plus vite et plus le sens de la vie, qui suis-je, où vais-je. En fait, j'étais là. J'ai fait ma crise de la cinquantaine, j'ai fait une transition.
Une transition, c'est ne rien faire. Mais j'ai lu quelque part ou entendu, je ne me rappelle plus bien, vous disiez que quand vous demandez justement de vous expliquer un peu sur cette transition, vous disiez Michael Jordan, Bruni Surin, les sportifs font à un moment donné un break dans leur carrière.
Ils arrêtent.
Et ils arrêtent et puis ils continuent. Et ça, en fait, c'est la réponse que j'attendais parce que j'allais juste vous demander, mais Ben-Marc, Michael Jordan, Bruni Surin, c'est des carrières de 30-35 ans.
Ouais.
Dont ils peuvent faire des transitions.
Ouais.
Mais une carrière comme la vôtre, c'est, on parle de quoi, de 40 ans de travail, 45 ans, on repousse même l'âge de la retraite. Est-ce que ça se fait une transition?
Oui. Mais c'est intéressant que vous ramenez l'exemple que j'avais donné des sportifs qui arrêtent pour se reposer. Les sportifs arrêtent de se reposer parce qu'ils ont trop demandé à leur corps. Nous, on demande beaucoup à notre tête et on ne se donne pas du temps de repos. Dans la même entrevue, je pense que c'est celle dont vous parlez, j'ai aussi dit, s'il fallait que je parle à mon petit Ben, moi, Ben-Marc, moi-même, un peu plus jeune, je penserais arrêter plus tôt. C'est-à-dire me donner un break un moment pour réfléchir parce qu'on ne se donne pas le temps de faire. Puis, oui, je pense avoir fait mes plus 10 000 heures et plus pour pouvoir être expert dans mon domaine et pouvoir arrêter. C'est possible de faire.
Ben-Marc, tout le monde ne peut pas se permettre une transition comme le vôtre.
Tout le monde peut se permettre une transition. Je suis convaincu.
Oui.
Tout le monde peut arrêter.
Il faut quand même avoir.
Est-ce que vous parlez de la partie pécuniaire de ce que
oui, ça oui, c'est-à-dire être quand même à l'aise.
On est capable de planifier des vacances pour Cuba. On est capable de planifier des vacances pour Mexique. Pourquoi on ne peut pas planifier des vacances pour soi-même? Plus long, c'est tout.
Ah oui, c'est ça, c'est plus long.
Ouais, c'est plus long. Il faut juste se donner les moyens. Moi, je ne coupais pas comme ça partir. Si je savais que j'allais arrêter pendant un an, mais j'économisais de l'argent.
Vous vous ennuyez pas?
Non, pas du tout.
Okay.
Non.
C'est pas long?
Non, parce que l'esprit, le disque dur, le logiciel, il est comme un ordinateur. Là. Il se reprogramme. Et on ne pense pas qu'il peut le faire parce qu'on est tellement dans la rapidité, dans le quotidien, qu'on se dit, si j'arrête, je vais m'ennuyer, je vais essayer. Écoutez, tu passes de 500 emails, moi j'en recevais parce que moi j'étais quand même un hop de toutes les crises et toutes les bonnes et les mauvaises nouvelles. Mais tu passes de 500 emails, ça commence à descendre. Au bout de 6 mois, tu en reçois 100. Après, tu en reçois 50. Après, tu reçois ceux que tu as suggérés et ceux que tu as sollicités. Donc ça ne vient pas. Mais malgré tout, j'avais besoin d'une assistante là, pour gérer ma vie quand même. Oui, ça peut être lourd. Moi, je pense que les gens ont peur, mais je suis convaincu de ça, qu'on est capable de planifier bien des choses, on est capable de planifier des vacances pour soi-même.
Donc, on va On va voir, on l'a dit, donc une transition, et ce sera une transition de quoi ? Mais transition d'un parcours sur lequel on va essayer de revenir un peu tout le long de ce petit moment de discussion. Alors, je vais aller dans le plus loin. Parlez-nous un peu de Bobo Dioulasso, cette ville dont vous êtes originaire. Parlez-nous de cette ville-là, de ce coin de pays.
Pour, géographiquement, pour ceux qui ne savent pas, on est en Afrique de l'Ouest. On est peut-être la ville la plus, je dirais, la plus développée entre Ouagadougou et Abidjan. Mais on est quand même dans un endroit enclavé et tout ça. Et moi, je suis de la banlieue de Bobo Dioulasso, donc Ouézainville et Léguéma. C'est des noms qui ne vous diront absolument rien ici. Mais c'est important de le dire parce que quand aujourd'hui tu vas à Bobo, effectivement, il y a de la lumière, il y a bien des choses. Et tu penses que Benmaki était dans une ville. Mais non, écoutez, j'ai souvent raconté aux gens que moi j'ai vu le néon à 8 ans. Ça veut dire la lumière qui s'allume et qui s'éteint à 8 ans. Donc, de 0 à 8 ans, quand la nuit tombe, c'est l'obscurité qui s'installe. Donc, à 8 ans, quand j'ai vu le néon, j'ai aussi vu que les gens vivaient au-delà de l'heure à laquelle moi je dormais. Donc, les gens pouvaient vivre au-delà d'une certaine heure, mais parce qu'il y avait la lumière et l'électricité. Je raconte l'histoire de l'électricité parce qu'à la fin, pour ceux qui savent ici un peu les enfants en Afrique, moi j'ai étudié sur des lampadaires. Donc, de ne pas avoir de lumière chez toi, mais d'aller étudier sur le seul lampadaire qui est dans le coin. Donc, tu partages le lampadaire avec d'autres personnes qui apprennent leurs leçons à haute voix. Et de le faire soir après soir pour étudier. Alors, Bobo Dioulasso, c'était pas un endroit très très riche. Je vois Julie qui est là, qui a vu ça, et qui a quand même réussi à produire un enfant curieux comme moi, un enfant ouvert sur la culture, et qui a su, dans cette espèce d'endroit avec un fonds culturel quand même, il y avait un centre culturel français où il y avait du cinéma, du théâtre, toutes sortes de choses, de commencer à fréquenter ces lieux-là et puis de savoir qu'il y a un monde ailleurs que celui que j'étais en train de vivre. Alors, Bobo Dioulasso, c'est un mélange un peu de mon lieu d'éveil, de mon lieu aussi où, de grande misère, mais avec des gens toujours aussi bienveillants autour de moi pour prendre en charge ma curiosité et mon envie de découverte du reste du monde.
Donc, dès le plus bas âge, c'est un enfant très curieux.
Ah, mais moi, ma mère serait ici qu'elle vous dirait que je trouvais que le ciel était bas. Il paraît que j'ai souvent dit ça. Je trouvais que les gens étaient. Notre vie ne peut pas se résumer à ce qu'on vivait. C'était bien trop de misère. Il doit y avoir quelque chose quelque part. Et elle vous le redirait aujourd'hui vraiment mal. J'ai toujours pensé que ça ne pouvait pas se résumer à seulement ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que c'est par les temps qui courent, quand je regarde le téléjournal, par exemple, on montre des images d'Haïti, je vois les gens dans les lieux cassés et tout ça, ça me remémore comment, même dans ces lieux-là, on a souvent une espèce de résilience qui fait qu'on est capable de teindre une partie de son cerveau, et puis toute la misère qui est autour, on ne la voit pas parce qu'on doit survivre, tout simplement. Je n'étais pas dans ce niveau de misère-là, mais j'étais quand même dans un environnement où il fallait être vraiment curieux pour imaginer ailleurs. Parce que ça ne venait pas naturellement. Là, on ne l'avait pas sous la main.
Enfin, bon, dans le temps, vous retrouvez à l'université de Ouagadougou, vous allez faire sociologie de l'information.
Exactement.
À cette époque-là, dans une bonne partie de ces pays africains, on rêve d'être, parce qu'on doit construire le pays, on rêve d'être avocat, on rêve d'être médecin, on rêve d'être je ne sais pas quoi d'autre. Pourquoi Benmark va faire la sociologie de l'information?
Ben, alors, je vais encore partir. Je vais encore parler de ma mère qui va être totalement. Elle va dire enfin quelqu'un lui pose la question.
Merci.
Parce que moi j'étais. Parce que moi j'étais. Honnêtement, je le dis avec beaucoup de fierté. Moi j'étais un premier de classe. Okay. S'il y avait. 1, 2, j'étais dans le 1 ou le 2. Puis à 3, on écrivait dans mon cahier, peut mieux faire. J'ai récemment reçu des papiers où quelqu'un m'a envoyé était relevé de moi, ou que j'avais été peu mieux faire, mais j'étais troisième de classe. Ben donc, je raconte ça parce que j'étais très très bon en sciences physiques, en maths, et puis dans la tête de ma mère qui se disait « Enfin, un médecin dans la famille. » Ça, ça a de l'argent, un médecin.
Bah oui.
Non, je veux faire de la sociologie. Elle dit « Tu vas être enseignant. Donc, tu vas être un professeur de géographie ou d'histoire. » La déception qu'il y avait dans sa face quand elle disait ça, je pense qu'elle fait comme un mois ou deux et doutait.
Il va changer d'un des professeurs, là.
Oui, mais c'est ça. Mais elle les aime, les enseignants, maintenant. Elle les aime. Mais pour elle, c'était peut-être première classe en maths, en sciences. Puis je pense qu'elle avait déjà commencé à raconter que peut-être que je serais médecin. Mmh. Ou femme. Puis au bout du compte, elle a fait confiance à mon instinct. Et j'aimais trop les gens. Je trouvais que la race humaine a besoin d'être analysée. Puis, s'il y avait un micro en avant, c'est moi qui le prenais. Okay. Je me suis dit, je ne peux pas être médecin et puis prendre un micro parler tout le temps. Sociologue, ça se peut. Que j'ai étudié la société, savoir comment elle fonctionne et tout ça. Vraiment, j'avais aucune idée si j'allais, qu'est-ce que j'allais faire plus tard, mais je savais que j'avais le goût des gens et puis l'étude et la compréhension de la société, ça m'intéressait. Et la culture.
On va y revenir, oui, effectivement, bon, la culture qui reste, je sais, elle est là et elle reste permanente, mais de Ouagadougou, vous vous retrouvez à Paris,
ouais.
Vous continuez,
ouais.
En communication, vous, ouais. Ajoutez dans l'administration, à l'université Panthéon Assas.
Oui, d'accord. J'ai diplômé de la Sorbonne.
Voilà.
J'aime dire ça. ça fait big shot. J'ai diplômé de la Sorbonne, voilà. L'Institut français de presse.
Voilà.
Assas Paris 2, qui est la deuxième université de France, en fait, derrière le jardin de Luxembourg, mm-hmm. Et qui est une université de droit, et bizarrement, qui était bourrée d'extrême droite.
C'est ce que là, je voulais voir.
Eh bien oui, nous, on se faisait garder pour aller en classe, mais on se trouvait big. Quand tu gardes pour que tu rentres dans ton amphithéâtre. Mm-hmm. Ensuite, on vient t'attendre pour que tu sortes de ton amphithéâtre. On fait ça pendant un an et demi, deux ans, quasiment. C'était violent, on dit ça à la blague comme ça, mais c'était en plein cœur de Paris, et puis on était obligé de nous protéger pour rentrer en classe. Mais je ne parle pas des années 90, mm-hmm. On parle de 93, mm-hmm. 95, on est à ce niveau-là, à ce moment. Alors, une belle expérience. L'idée, c'était de me déposer dans une formation, le temps de réfléchir, parce que là, rendu là, j'étais rendu à 20 ans quand même. J'ai commencé à savoir exactement un peu où je pouvais aller. Et ça m'a permis aussi de faire des stages. Comme j'étais diplômé de cette université, dans cette université, ça me donnait des stages, donc on peut toucher un peu à tout, voir qu'est-ce que j'ai envie ou que je n'ai pas envie.
À ce moment-là, vous sortez de l'université, vous travaillez un peu à Paris, Synergie, je pense.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et vous décidez, ok, je tourne la carte, je vais au Canada.
Ouais, ça,
je vais à Mirabel.
Ça vient avec beaucoup de chance, ça vient avec beaucoup de rencontres aussi, parce okay. Que à force de rencontres, je rencontre des gens du Québec, et on me dit comme ça aussi qu'il fallait que je vienne visiter le Québec. Donc, les gens finissent. C'est drôle parce que mon patron à la SODEC, qui vient de décéder, Pierre Lampron, qui doit sourire d'où il est en ce moment, j'ai même rencontré à Paris. Donc, à force de travail, je rencontre du monde qui finissent par venir me retrouver un jour au Québec. Donc, tu viens par curiosité la première fois. Moi, j'adore l'histoire de venir un été voir comment ça fonctionne, mais quand tu es à Paris. C'est une ville avec beaucoup de monde. Mm-hmm. J'arrive à Montréal, c'est en plein été, je vois encore les pancartes du Maurier, Players dans la ville, avec le festival de jazz et tout ça. Je me dis, ça y est, il y a un paradis sur terre. Et moi, je suis coincé à Paris. Je me dis, c'est ici, il faut que je vive ici. Mm-hmm. Ça se pouvait pas. J'avais du festival en plein air, des gros artistes. Je me disais, mince, je ne peux pas rester à Paris. Moi. Non, et puis il y avait aussi l'idée que la France, et j'espère que ça a changé un peu maintenant, mais j'ai encore des amis qui ont fait la même université que moi, qui sont dans des conditions que je trouve un peu déplorables, parce que c'est des gens très très brillants. Moi j'ai fait le move au Québec, puis ça a tout changé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que de Paris, on était des éternels bénévoles. Et jamais tu en faisais assez, jamais tu étais assez. Mais tu ne peux pas mettre un doigt là-dessus, mais chez McDo, on est capable de prendre un bénévole. C'est McDo. Alors, le Québec, quand je l'ai fait, l'expérience de l'été, j'étais presque certain que c'était ce que je voulais vivre. Quand je suis retourné, ça a devenu une obsession. Là, il fallait aller au Québec. Et si j'arrive au Québec, où est-ce que j'habite? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ça, c'est toute notre préparation, comme tu vois.
Mais vous ne connaissez pas du tout le Québec?
Mais non.
Ok.
Je ne connaissais pas l'hiver, en tout cas.
C'est ce qui est une autre façon de parler.
Même à la télé.
Même à la télé.
Même à la télé. Moi, le Québec, je voyais ça un peu à la Céline Dion et Rock Voisine. Là. Quand tu es de Paris, c'est comme ça que tu me voyais. Puis Charlevoix.
Quand vous immigrez au Canada ou au Québec?
Ah, ça, c'est la bonne question. J'ai immigré d'abord au Canada.
Okay.
Ça, c'est comme ça, dans ma tête, j'allais au Canada. Ensuite, je suis arrivé à Québec. Je n'arrêtais pas de dire à Québec. On me dit non, tu vas au Québec. À Québec, c'est une ville. Je dis non, je vais au Québec. Mais je ne savais même pas que la ville de Québec existait. Tu vois la confusion là, comme ça. Finalement, j'ai commencé par découvrir où j'allais habiter, qui était Côte des Neiges. Et qui était très, très montréalais. Et puis, on appelait le bus 51 Air Afrique, parce que si tu cherchais un Africain, il était sur cette ligne-là. Tu te mettais au coin de Queen Mary, tu attendais le bus, tu montais. Allô? Tous les Africains habitaient sur la même ligne. Alors, Côte des Neiges, c'est une blague, mais en réalité, c'est le coin où tout le monde est, et ceux qui se connaissent qui habitaient. Donc, on se retrouvait à tous pas loin de Queen Mary et Côte des Neiges. Et quand tu t'installes là, tu te dis maintenant qu'est-ce que tu vas faire. Et puis, bon. Après, c'est une histoire de rencontre et puis de gens pour t'aider et puis t'accompagner dans tes choix. On n'est pas très riche. C'est pourquoi ça me dérange pas quand tu dis la transition. J'ai une scène là. T'es pas riche là. Il fallait partir de quelque part. C'est pourquoi quand tu pars d'où je pars de Burundi, là, pour arriver là, tu peux faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire arrêter des jobs, même si la job est à 300 000 piastres ou quelque chose. Parce que tout simplement, tu as pris des risques tout le temps. Tout le temps. Et moi, c'est la dernière chose qui me fait peur, c'est un risque. Okay. Professionnel? C'est la dernière des choses.
Quand tu arrives, tu décides d'aller au HEC.
Ouais.
Pour aller.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Je décide d'aller à la SODEC.
Oui. Alors, la SODEC, oui, parce que j'ai entendu, pour ceux qui sont arrivés après, j'ai entendu l'anecdote là sur la SODEC. Vas-y, comment tu arrives à la SODEC?
J'ai eu un stage.
Ouais.
J'ai eu un stage comme un jeune premier à la SODEC. Il y a un moment Twilight parce que les deux personnes qui étaient quasiment, elles sont assises là. Et on ne s'est pas vus depuis 97. Et plus encore. Là, quand je disais aux gens, ils m'ont vu en culotte courte, c'est vraiment. Alors, effectivement, Nathalie et Céline, d'ailleurs, que je salue, qui sont ici, je suis content de vous retrouver vraiment. Alors, j'arrive comme stagiaire à la SODEC et on me met en charge de la recherche et du bureau de président, et puis tout ce qu'il y a à faire dans la maison.
C'est le nouveau, quoi.
Ouais. Le nouveau qui arrive. Ouais. J'arrivais de Paris, c'est intéressant à dire, d'une université, la deuxième de Paris. Mm-hmm. J'avais jamais touché un ordinateur. Oui, Sorbonne. J'avais jamais touché un ordinateur.
Oui.
J'étais au Minitel, moi. Alors là, elle me met dans un cubicule avec un ordinateur. Je restais plus tard que tout le monde le soir. La dame de ménage est passée, je suis en train de. J'essayais de faire marcher l'ordinateur, l'éteindre, la rallumer, appuyer l'espace. Ah. Puis là, j'avais souvent des textes à faire, des mémos à faire, et puis ça me prenait plus de temps, j'étais capable de l'écrire, mais l'ordinateur. Et j'arrive à la SODEC, et c'est Pierre Rampon qui est le PDG, et c'est la première mouture en fait de la SODEC. La Société de développement des entreprises culturelles du Québec, qui était en fait la fusion de la SOGIC, et puis qui était le cinéma, et puis une autre entité. Mais moi, je ne connais rien de toutes ces deux entités. Je sais que c'est une nouvelle organisation qui est en train de partir, et cette organisation-là, elle est comme, à sa naissance, là, tout est effervescent. Pour ceux qui ne connaissent pas la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, c'est celle qui finance les entreprises, pas les artistes, les entreprises culturelles. Mm-hmm. Donc, tu as une compagnie de disques, c'est la compagnie qui le finance. Elle ne veut pas financer le chanteur Belmac, mais la compagnie Belmac Inc. Voilà. Alors, donc, c'était un poste d'observation extraordinaire parce que j'avais tous les métiers de la culture, littérature, métiers d'art, cinéma, et mes deux collègues qui sont ici étaient du disque. Donc, l'anecdote, c'est que je suis arrivé un premier jour dans le bureau de Nathalie, dans le cadre de la porte. Elle a dit que j'avais un t-shirt blanc moulant.
Et un sourire.
J'ai dit, est-ce que je suis le nouveau? J'aimerais travailler dans le disque avec vous. Est-ce que vous aurez des choses à faire pour moi et tout ça? En tout cas.
Ça peut être long.
Et donc, je reste à la SODEC quand même 2 ans. Deux ans, pratiquement trois. Hein. Puis très rapidement, je m'adapte. Là. J'apprends à fonctionner, je comprends. J'étais curieux, donc j'apprenais à savoir c'est quoi les politiques culturelles, qu'est-ce que ça sous-tendait, qui on supportait. J'avais des tonnes de disques à la maison que je prenais, des tonnes de livres que je lisais, les objets d'art, j'allais à des salons, partout voir ce qui se passait. Des vrais mentors, vraiment, des gens qui m'ont, comme tout d'un coup, ajouter une pelure d'oignon là, à mon affaire. Ouais. J'étais plus juste Air Afrique. Là.
Tu venais de l'argent. Mais quand tu en parles, tu parles de beaucoup de disques, beaucoup de livres, des choses comme ça. Cette passion pour les livres, les disques, c'est pas nouveau. Parce que la culture, tu la découvres beaucoup plus tôt. Oui. Tu es attiré par la culture beaucoup plus tôt. Ça vient d'où, à Bobo Diolassou, qu'un garçon?
L'ouverture, la curiosité.
Toi,
et aussi, c'est une espèce. La culture, ça a ce je ne sais quoi de nous préparer à comprendre l'autre, à se comprendre soi-même. Pour peu qu'on s'en occupe un peu. Là. J'ai dit aux gens, quand vous n'avez jamais écouté un concert de musique classique, allez juste vous asseoir à la place des arts, puis imaginez que chacun des musiciens a une partition qu'il est en train de lire que vous ne pourrez jamais lire. C'est-à-dire que lui, il comprend ce qui est écrit là, puis qu'il va jouer la même partition que l'autre qui est à côté de lui et l'autre qui est à côté de lui. Il y a quelque chose de très organique, mais qui en fait révèle le vivre ensemble et comment la beauté peut se créer ou les choses, la solidarité se crée. Alors moi, la culture a toujours été comme une espèce de point d'ancrage à où j'étais.
Je pose la question, Benmark, parce que j'ai participé par exemple à un colloque avec Julien qui est ici, où on parlait de philanthropie culturelle.
Oui.
Et en ce qui concernait les populations immigrantes, donc notamment les populations subsahariennes, le rapport avec la culture était quelque chose, ou continue peut-être pour certains, à être quelque chose d'un peu... C'est-à-dire qu'on n'a pas la même relation avec la culture qu'on a ici. C'est-à-dire ici, on dit, OK, je consomme de la culture, et moi, je dis que du côté de l'Afrique, on ne la consomme pas, on est en plein dedans. Ça fait qu'on ne la voit pas comme la culture, c'est-à-dire objet de consommation, on est en plein dedans. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est une belle lecture, mais c'est aussi la faiblesse de la pensée de la chose. Parce que la culture, elle est économique. Mm-hmm. Et en ce moment, ceux qui profitent le moins possible de la culture, et là, les Africains eux-mêmes, c'est les Africains eux-mêmes. Parce qu'on n'a pas travaillé sur nos industries culturelles.
Ouais.
On subit tous les contre-coups d'un monde industrialisé. Et combien d'académies on a sur le continent? On n'a pas d'académie. Les beaux-arts, Dieu seul sait que tout part de nous pour venir se créer ici. Les musées, on commence à installer des vrais musées en Afrique maintenant. Là. C'est maintenant que le Basquiat arrive au Bénin et en Côte d'Ivoire. Mais parce qu'on a toujours pensé... D'ailleurs, va dire à ta mère que tu veux être artiste.
Déjà que enseignant, c'est pas évident.
Elle va te demander... Déjà, professeur, tu veux être artiste, toi.
Ouais.
Artiste de quoi? Tu vas manger quoi? Alors, il y a toute cette relation qu'on a avec les arts et la culture, mais qui n'est pas, pour moi, c'est pas mauvais, parce que il faut juste qu'on comprenne que ce qu'on regarde et qui ne semble pas avoir de la valeur a une vraie valeur intrinsèque. Si mon enfant demain décide d'être pianiste ou d'être joueur de djembé, il n'y a aucun mal. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te vendre ça en Afrique. Non. Parce que les gens pensent que la culture... et là, les réseaux sociaux sont venus nous rendre fous avec le YouTube et puis tout le monde dans le système. Il y a un vrai travail de positionnement des beaux-arts, moi j'appelle ça comme ça, à faire sur le continent, qui est vraiment de penser en termes d'industrie. Et je suis content de parler du Conseil des arts, parce que quand vous avez des institutions ou des organes qui sont capables de réguler et d'organiser les choses, ça donne le MASA, le marché des arts et des spectacles à Abidjan. Ça donne le salon de la littérature au Maroc. Ça donne... Il faut qu'on y aille de ça. Cyril, dans toute cette lecture de la culture, il y a deux affaires qu'il faut toujours regarder. Il y a la photographie. Qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire le bruit ambiant et tout ce qui se passe. Puis il y a une radiographie en arrière. Mm-hmm. En arrière, est-ce qu'on a la structure pour pouvoir supporter tout ce qui se passe là? Est-ce que tout ce qu'on voit là tient comme il faut? Et c'est la radiographie profonde qu'il faudra aller faire. Parce qu'après, c'est facile de dire à tout le monde, oh, nous, vous savez, l'Afrique, la culture, on l'a déjà dans la peau. Mais...
C'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que je voulais comprendre un peu d'où ça venait, parce que quand on essaie de suivre ton parcours, il y a deux choses qui sont indissociables, c'est l'homme de communication et c'est l'homme de culture. Donc je voulais comprendre un peu. Je vais terminer un peu avec l'homme de communication qui sort de la... SODEC, et quand on prend le parcours, alors on regarde, c'est Québécois. Après Québécois, c'est...
D'accord, fédéré, Solio,
groupe Solio. Groupe Solio, après groupe Solio, c'est Via Rail. J'aime bien poser cette question. Comment on sort de la SODEC à cette époque, puis on dit, bah, tiens, je vais aller chez Québécois. Avec l'image de Québécois tel qu'on la connaît, l'espèce de gros consortium, comment ça se passe?
C'est intéressant. Parce que quand je quitte la SODEC, je me rends compte que le système nord-américain, je n'avais aucune formation ici. Donc je me dis dans ma tête, le système va me reprocher un jour de n'avoir aucun diplôme nord-américain. Diplômé de Ouara, c'est bien, mais diplômé de la Sorbonne, c'est bien, mais mon CV, il n'y a rien de nord-américain qui pourrait m'être reproché. C'est comme ça que je pars au HEC. Alors, donc, je pars au HEC pour m'ajouter la partie management, mais à ce moment-là, on est rendu à 28 ans, là, que je commence à être... il faut que ça se passe, là, quelque chose d'autre se passe dans ma vie, parce que c'est bien beau de flotter comme ça dans la vie, à se chercher, mais... Et donc, je fais les HEC, et en sortant de HEC, j'ai commencé à m'impliquer. Mais vraiment, c'est bizarre, hein? J'ai commencé à m'impliquer chez Diapason Jeunesse à Laval, qui s'occupait des jeunes en milieu de décrochage. Je m'occupais de... le temps que j'ai un job, j'ai commencé à m'impliquer dans des choses qui m'intéressaient parallèlement. Nuit d'Afrique, Vue d'Afrique. J'ai fait du bénévolat, même à Juste pour rire. Ils s'en souviennent peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai fait...
Tu as fait du bénévolat. S'il te plaît, ne perds pas ton idée, mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Je voudrais revenir là-dessus. Est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui vient d'Afrique ou d'Europe et tout, avec tous les diplômes dans le sac, tu lui dirais si c'est bien, tu es bien diplômé, mais cherche à obtenir un diplôme d'Amérique du Nord, tu dirais ça aujourd'hui?
Absolument. Okay. Et c'est encore plus vrai que maintenant. Okay. De toute façon, on ne reconnaît même pas les diplômes déjà.
D'accord.
C'est encore plus vrai aujourd'hui que d'avoir. Il faut absolument que tu aies une diplomation.
On parle d'équivalence.
Non. Essaie d'avoir un diplôme localement ici qui marque ton ancrage, qui marque aussi que tu comprends un peu au moins le système. Puis je te dis une autre affaire, c'est que la diplomation ici permet aussi de voir même comment on s'exprime et quelles sont les expressions du quotidien, quelles sont les mots que tu vas rencontrer rapidement, les mots M-O-T-S que tu vas rencontrer quotidiennement. Parce que pour la majeure partie du monde, la langue parlée, quand tu viens d'ailleurs, ce n'est pas gagné. Tu es obligé de tendre l'oreille pour comprendre. Est-ce que souvent tu fais la bonne expression? Est-ce que tu as dit la bonne affaire? Et ça reste des moments.
Ok, donc il faut aller...
Il faut aller absolument faire la diplomation.
D'accord. Donc revenons, tu commences à t'impliquer.
J'ai fait l'implication à Diapason Jeunesse et tout ça. Et un soir, j'ai reçu un téléphone de mon ancien patron, qui est Pierre Lampron, qui vient d'être nommé chez TVA Film. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu venir travailler avec nous? Moi, j'étais là, non, la télé, qu'est-ce que je fais là? En tout cas, ça reste comme ça. Et une fois, j'étais dans un événement et j'ai rencontré Luc Lavoie, qui était le numéro 2 des Québécois. Et ça, c'est intéressant aussi à noter.
Okay.
Il faut être intéressé à tout ce qui se passe en ville. Donc moi, les deux, j'ai des causeries de musique, comme ça, comme mm-hmm. Ah, mon Dieu, j'étais là le premier. J'étais là le premier, dès qu'il y a une... Je pense que le centre-ville de Montréal, je connaissais tous ces petits événements qui existaient. Je ne sais pas comment je faisais.
Le réseau.
En fait, un réseau, en fait, okay. En plus, on n'avait pas d'Internet. Mm-hmm. C'est effrayant. Je me demande comment on faisait. Alors, je rencontre Luc Lavoie. Et puis, il y a un mec qui me dit, ah, je pense que j'ai posé une question, qui m'a dit, ah, j'aime des bibites comme vous, là, il m'a dit ça comme ça. Il m'a donné sa carte. Okay, c'est Luc Lavoie, mais c'est qui? Ensuite, je commence à découvrir qui c'est. Et un soir, je reçois un téléphone de Pierre Lampron, donc mon ancien président, qui me dit, écoute, je quitte TVA Film, je rentre chez Québécois, et je suis maintenant le vice-président aux affaires, aux affaires institutionnelles. Mm-hmm. Là, tu arrêtes de niaiser, tu viens avec moi. Ok. Alors moi je me dis, ok, la première fois ça ne m'a pas desservi. je vais aller voir. Et de fait, Pierre-Carl Pelladeau venait de prendre la compagnie en main parce que le père était décédé. Alors donc il recréait sa première mouture de cadre autour de lui, parce que toute la mouture autour de son père, les uns étaient partis, quelques-uns ont été demandés de partir, mais. Bref, il y avait une équipe qui se reconstituait autour de Pierre-Carl Pelladeau, qui est le nouveau PDG. Mais il a 40 ans, hein? Moi, je viens d'avoir 30. Et quand je le rencontre, parce que Pierre Lampron me dit, en fait, tu vas travailler pour moi, mais on va travailler pour Pierre-Carl Pelladeau, et donc c'est ton deuxième patron. Entre les deux, avec Luc Lavoie. Petite histoire courte, quand je rentre dans son bureau, c'est Pelladeau, et puis il me regarde à travers ses sourcils comme ça.
Pelladeau, là.
Le père, okay, non, le fils. Okay. Donc je me vois encore me regarder, mais moi je ne perds de rien. Là. Je pense même pas qu'on m'a fait une faveur. Je pense même pas qu'on m'a fait une faveur, là, j'ai mon air supérieur.
Mais sur le moment. Tu sais où tu es en train d'aller.
Oui.
Tu as idée
mais...
de ce qu'est le.
Tu n'as jamais fait de grande entreprise, donc okay. Tu n'as pas idée de ce que c'est. On te dit que l'entreprise, l'organisation a 22 000 employés. Tu te demandes, ils sont où, ces employés? Ils sont où? Ouais. 22 000, il y a tas de milliards de chiffres d'affaires. Tu dis, okay. Parce qu'en ce moment, il y avait Québécois World aussi dedans.
Okay.
Donc, les milliards, on en comptait. Et qui êtes-vous? Et là, on découvre qu'on a tous les deux fait la même université.
Okay.
La Sorbonne. Parce que les diplômés de Paris 2, je pense que ça a shifté quelque chose dans sa tête. Et après ça, bon, j'étais devenu son homme à tout faire. Recherche, discours de temps en temps, relation avec les institutions, quelqu'un vient, il y a un problème, appelez Ben Marc. Il n'y a pas tant de pouvoir, mais appelez Ben Marc. Alors, je suis resté là avec l'organisation. C'était des beaux moments quand même, parce que j'avais mon mentor qui était là, qui était Pierre Lampron, pour me guider sur certaines affaires. Puis le reste, il fallait que je le bâtisse moi-même. Donc, monter les échelles jusqu'à directeur principal pour...
2005-2011.
C'est ça.
Le terme diversité et inclusion, tout ça, on ne parle pas encore de ça.
Non, mais deux ans avant, peut-être trois ans même avant mon départ, j'ai commencé à intégrer toute la notion de la diversité chez TVA. C'est bizarre parce que j'ai plein d'amis encore qui sont chez TVA, qui me parlent de ce moment-là. Quand je suis arrivé pour la première fois, il y a un petit problème quand même. Il y a des obligations réglementaires. On n'a pas de la diversité en avant de la caméra, on n'en a pas en arrière, il faut quand même essayer de régler quelque chose. Puis il n'y avait pas juste la diversité raciale, il y avait mm-hmm. aussi la diversité pour malentendants, non-voyants et tout ça. Mm-hmm. Mais il y avait tout un travail de positionnement à faire. Qu'on a intégré, c'est là que j'ai commencé à militer très très fort sur la question de la diversité dans les médias. Du siège social, moi, je pilotais ça avec l'équipe de TVA et puis Vidéotron. Et ça a été une expérience quand même de convaincre les organisations que ce n'est pas une faveur qu'ils font. C'est le futur de l'organisation qui se jouait, parce que si les clients ne sont pas là et qu'ils ne se reconnaissent pas dans les produits, on va les perdre à jamais et puis ça va être fini.
Une petite histoire courte, anecdote personnelle, c'est à ce moment aussi que je fais encore un peu plus la connaissance de Ben Marc, parce qu'à ce moment, Québécois organise et sont les premiers à organiser des forums sur la diversité et tout. Donc tu fais 2005-2011 et en 2011 tu décides de partir.
Oui, parce que...
Pourquoi ?
Transition. Ah non, ça va bien mon affaire. Parce que je suis rentré à 30, à 40, je me dis, ah, je fais une crise de la quarantaine encore.
Encore.
C'est une autre crise.
C'est tous les 10 ans.
Tous les 10 ans, je fais une crise.
Les grandes conversations de l'Institut Néo-Québec, invité Ben Marc Diendéré, président du Conseil des arts de Montréal, fin de la première partie. Mon nom est Cyril Écoine.